Allez, donc bonjour à vous tous. Je démarrerai juste par un mot quand même, parce que c'est pas ce rapport avec un atelier de philosophie, avec ce qui s'est passé donc avant-hier, donc cet enseignant à Conflans-Sainte-Honorine qui a été véritablement décapité, hein, parce que c'est quand même que l'assassin a visionné, a filmé une vidéo avec sa tête à côté, quoi. Oui, oui, c'est dire une vidéo qu'il a postée sur Twitter, oui. Et c'est lui, il n'y a pas de contestation possible, quoi. Et je dirais que c'est un fait très très grave, à mon avis beaucoup plus grave que le problème de l'épidémie, hein, parce que ça engage une autre nature de l'évolution du monde, quoi, et de la société. En particulier, cet enseignant avait fait dans un cours d'histoire géo à ses élèves de quatrième, hein, une instruction civique sur la liberté d'expression, et il avait à cette occasion montré les caricatures réelles de Mahomet, les caricatures réelles, parce qu'il s'est avéré que ce qui avait circulé dans le monde, dans certains pays et certains milieux du monde musulman, notamment au Pakistan, et qui avait suscité des manifestations monstres, c'était pas les bonnes caricatures, c'est-à-dire que c'était, comme on dit aujourd'hui, des fake news qui ont circulé. C'est-à-dire que c'était des caricatures extrêmement violentes, injurieuses, infamantes pour l'islam, alors que les caricatures réelles qui ont été publiées par Charlie Hebdo, et c'est pour ça qu'ils les ont republiées à l'occasion du procès, c'est pas de la provocation gratuite, c'est des caricatures très très soft, comme on dit en bon français ou en globiche, comme vous voulez. Très soft, au sens où c'est des caricatures de même nature que celles qu'ils ont pu faire du pape ou d'hommes politiques, comme ils en font régulièrement, quoi. Et qui n'ont rien d'infamante, qui sont amusantes, qui taquinent. Voilà, et donc, ça veut dire quand même qu'au cœur de la société française, la vision du monde et les méthodes de Daesh s'instaurent, s'instillent peu à peu, quoi. Et ça, c'est quand même un vrai problème, quoi, qui demande d'y réfléchir en prenant le recul, et surtout pas en condamnant globalement les musulmans en France, mais de condamner l'idéologie politique de l'islamisme. Mais tu peux pas dire ça comme ça, parce que ça veut dire qu'on va stigmatiser tous les réfugiés tchétchènes. C'est un tchétchène, mais peu importe, c'est un jeune garçon de 18 ans. Voilà, qui vivait d'ailleurs à Évreux, pas du tout dans la région parisienne, oui, qui est pris par cette idéologie qui gagne du terrain peu à peu. Et alors, ce qui est très grave, c'est que ça se renforce mutuellement, c'est un mécanisme classique. Les premiers qui ont réagi, c'est, comme par hasard en France, du côté des politiques, c'est Marine Le Pen et Éric Ciotti. Et qu'est-ce qu'ils disent? C'est en gros, il faut, il y a que la violence qui importe. Il faut mettre dehors les musulmans et l'islam. Voilà. Donc plus que jamais, et ce vide, c'est le même que l'analyse qu'avait faite, qui a été assassiné, hein, Pasolini, le cinéaste et le poète, quand il a écrit son article qui est paru dans le Corriere della Sera ou La Repubblica, je ne sais jamais, l'un des deux journaux italiens, qui s'appelait La disparition des Lucioles, auquel avait répondu, comme vous le savez, bien après Georges Didier Huberman dans son livre magnifique La survivance des Lucioles. C'est tout le programme de notre association. Pasolini, non, c'est pas dans ce texte-là, c'est dans un autre article qui est paru au même moment. Il fait une analyse magnifique du développement de la toxicomanie dans la société italienne et occidentale. Le développement de l'usage des drogues. Et il dit, la drogue se développe dans une société trouée, qui a des trous de plus en plus. Et c'est dans les trous de la société que la drogue se développe. Alors, une société trouée, ça veut dire quoi? C'est la métaphore du tissu social, du lien social. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est une société où l'individu se retrouve dans des grands espaces vides, eh bien, ça va favoriser l'usage de la drogue. Or, c'est pas sans rapport avec ce que tu dis, Isabelle, c'est-à-dire que le développement de l'idéologie islamiste est concomitant de l'usage des drogues. D'ailleurs, dans les quartiers dits sensibles, il y a aujourd'hui une alliance très forte, un accord très fort entre les caïds de la drogue et les salafistes, les islamistes, qui sont main dans la main. Et d'ailleurs, les salafistes bénéficient du fait que les caïds leur donnent de l'argent. C'est-à-dire qu'il y a une alliance entre la toxicomanie, le trafic de drogue dans les quartiers et l'islamisme politique. Donc c'est le même mécanisme qui se développe, et effectivement ça renvoie à une société trouée. Donc plus que jamais il est important de maintenir, de développer des lieux comme ce qu'on fait aujourd'hui, des lieux où la pensée, où on peut penser ensemble, où on peut exercer l'esprit critique ensemble. C'est absolument nécessaire, quoi. Non, c'est pas récent, moi. Oui, je sais.
Et c'est étouffé.
Oui. Quand j'étais en Franche-Comté, là, au Centre Régional du Livre, on organisait un festival itinérant, et dans la journée, c'était des rencontres dans les collèges et lycées de la région. Et donc, ça remonte maintenant à une quinzaine d'années, cette affaire. Et j'avais invité parmi les écrivains une écrivaine qui est très intéressante, qui s'appelle Zaya Rahmani, qui est arabe, hein, qui est d'origine algérienne, mais son père est harki, voilà. C'est une harki. Et elle a écrit donc ses livres, ses romans à partir de son histoire. Eh bien, dans un collège où elle intervenait, il y a eu des réactions extrêmement violentes des élèves, parce que la prof de français les avait fait travailler sur son livre, et il y avait eu un rejet violent des élèves. Et au moment où elle intervient, plusieurs élèves se lèvent et très agressivement disent non, enfin l'injurer, et disent non, on reste pas, et sont partis. En fait, c'est parce qu'elle manifestait une forme de féminisme, en réalité, dans sa manière d'être et dans ses livres, quoi. Elle défendait la liberté de la femme. C'est là-dessus qu'ils ont réagi violemment. Et ça, donc, ça remonte à une quinzaine d'années. Alors, la prof, elle a résisté, mais elle s'effondra en larmes, hein, quand même. Et c'est Zaya Rahmani, qui est une femme forte, une femme puissante, comme on dit aujourd'hui. Oui, mais Salamé n'a fait que reprendre le titre du livre de Marine Diaye, qui est un livre intéressant, « Trois femmes puissantes », qui est paru aux éditions de Minuit, voilà. Donc c'est Zaya Rahmani qui a tenu la salle et qui a permis que la prof ne s'effondre pas complètement, quoi. Mais il faut pas renoncer. Tout prof qui renonce à cause de la peur fait perdre une bataille. Il fait perdre, non pas la guerre, mais une bataille, quoi. Le chef d'établissement, oui, mais il y a des profs qui résistent, hein. Celui qui a été décapité, non, c'était pas la première année. Oui, mais c'est pour cela que il est important que le chef d'établissement soit un vrai soutien. Les profs qui cèdent, c'est des profs qui sont dans un établissement où il n'y a pas de cadre, voilà. Et c'est ça qui manque. Mais là, par exemple, la principale du collège soutenait complètement et faisait front et écran protecteur par rapport aux parents d'élèves, etc. Ça, c'est essentiel, hein. Mais non, il n'était pas menacé. Non. Il était menacé pour le même fait, là, c'est récemment, tout à fait récemment. Parce que les années passées, il n'était pas menacé du tout. Hein. Bref, je tenais quand même à évoquer ça en préliminaire, parce que on peut pas faire un atelier philo et passer à côté, ignorer la situation actuelle du monde. Et ça a un rapport direct avec la situation du monde. Donc c'est important de... Et pour moi, ça redonne tout le sens de ce qu'on peut faire ensemble dans ce genre d'atelier, quoi. Et le problème, il faut multiplier ça partout, quoi. Partout, dans tous les territoires. Et ça, c'est essentiel, quoi. Voilà. Bref. Revenons-en à notre camarade Friedrich Nietzsche. Donc, si vous vous souvenez, la dernière fois, on en était resté à un premier point, qui est que pour Nietzsche, la morale telle qu'on l'entend à l'époque, la morale qu'on va dire traditionnelle, pour lui, c'est la morale, la foi qui est issue de la religion, du christianisme, qui était encore très dominant à l'époque. Et puis pour lui, la morale, c'est aussi la morale qu'on dirait par la suite laïque. Hein, c'est pas simplement la morale religieuse, c'est aussi la morale laïque. La morale, par exemple, telle qu'elle est préconisée par les enseignants, les hussards de la République, comme on disait à l'époque de Nietzsche, pas en Allemagne, mais on parlait des hussards de la République en France. Les clercs, si vous voulez, la République en France, et l'Allemagne, c'est un peu en décalage et moins marqué, mais c'est aussi le même mouvement. La République développe le corps des enseignants qu'elle nomme les clercs. Or, les clercs, clercs, c'est les pendants des clercs religieux, des religieux. Vous savez que l'école en France s'est développée beaucoup par les jésuites en particulier. Les collèges jésuites maillaient tout le territoire français. Et donc la République développe ce projet de l'instruction publique, comme on le disait à l'époque, l'instruction publique, avec la formation du corps des instituteurs. Et les instituteurs, le mot est très intéressant, c'est le mot que Rousseau utilise par rapport au contrat social. L'instituteur, c'est celui qui institue la société à travers le contrat social. Et c'est celui qui institue la société, qui fait société. Ça, c'est la grande idée du XIXe siècle et de la République. Et donc, le clerc de la République développe une morale, qui est une morale parallèle, concurrente, on va dire, au XIXe à celle du christianisme. Mais pour Nietzsche, c'est le même problème, quoi. Il ne fait pas de distinction. C'est la morale héritée de la société. Alors, la morale républicaine en Allemagne est beaucoup moins marquée. Évidemment, il n'y a pas de république. Mais ça s'instille. Vous savez que toute l'intelligentsia allemande est complètement, depuis la Révolution française, marquée par l'idéal républicain de la Révolution française. Donc, c'est le même problème, même s'il est moins marqué. Voilà, donc, pour Nietzsche, hein, je résume ce que je disais l'autre fois, la morale est un problème. La morale est un problème, y compris, donc, la morale laïque, et y compris la vision morale qu'instille ou sur quoi repose la science humaine. Vous savez que le 19e siècle et la seconde moitié du 19e siècle est une période où va se développer les sciences humaines sur le modèle des sciences exactes de la physique. Et en particulier, Nietzsche va beaucoup s'intéresser à la psychologie telle qu'elle se développe au 19e et en particulier à la psychologie britannique, qui est très développée à l'époque, et notamment des gens comme Spencer, ou aussi la psychologie telle qu'elle est issue des sciences dites exactes, des sciences naturelles, et telle qu'elle est issue du darwinisme. La pensée darwinienne, au XIXe siècle, c'est une pensée majeure, centrale, qui pense l'évolution des espèces, etc. Et c'est pas sans rapport avec aussi la psychologie, si vous voulez. C'est pas simplement l'évolution des espèces qui font que les espèces les plus fortes subsistent et les plus faibles disparaissent. C'est la sélection naturelle. C'est pas simplement les plus forts du point de vue corporel, physique. C'est aussi les plus forts du point de vue mental, psychologique, pour Darwin. C'est pour ça que Nietzsche est, par certains côtés, darwinien, même s'il va critiquer sur certains aspects Darwin, et notamment du point de vue de la morale qui sous-tend pour lui la science humaine, mais aussi il va jusqu'à la science physique, hein, la science naturelle, etc. La science en général, Nietzsche va la critiquer comme porteuse d'une morale, je vais préciser en quoi. Simplement, malgré tout, pour Nietzsche, Darwin, c'est quelqu'un qui va beaucoup compter pour lui parce que ça va dans ce mouvement d'évolution de l'humanité vers la puissance, vers le surhomme, comme ils veulent l'appeler, et d'élimination de l'homme faible. voyez, il y a ça qui est présent, c'est-à-dire que quelque chose qui devient un peu ambigu si on le récupère d'une manière malveillante pour Nietzsche. C'est-à-dire qu'une forme de sélection des espèces pour qu'elles deviennent une forme de, c'est un mot que Nietzsche a utilisé, de race des seigneurs. Et si vous voulez, là encore, c'est pour ça que je rappelais par rapport à un autre sujet sur la toxicomanie tout à l'heure, Pasolini. Pasolini était un homme extrêmement lucide. Et Pasolini, il faut voir ce film qui est insupportable. Salò, S-A-L-O, ou La République de Sodome, qui est ce film où il met en scène, de façon fictionnelle, mais avec une vérité historique, ce qui a été réellement un fait historique, réel, qui est la République de Salò, qui est une république que des fascistes ont organisée en Italie. Et donc, ce que Pasolini montre, c'est son propos de fond, et ce qu'il fait dire aux seigneurs fascistes, la postérité comprendra que les vrais anarchistes, au sens nietzschéen du terme là, c'est nous les fascistes. C'est une phrase du film que Pasolini fait dire à un des seigneurs fascistes de Salò. Ça veut dire quoi pour Nietzsche? Ce qu'il appelle anarchiste, c'est pas une idéologie politique là chez Pasolini. C'est beaucoup plus métaphysique. En fait, il désigne par là la conception de la liberté nietzschéenne. Et ce qu'il montre dans le film, c'est l'opposition entre les seigneurs fascistes qui appartiennent d'une certaine manière à une race des seigneurs et tous ces jeunes qui sont réduits à une condition d'esclaves, qui sont les gens faibles, les esclaves. Ils deviennent des choses, des objets aux mains des seigneurs fascistes. Et il faut lire ça chez Pasolini comme une critique du nietzschéisme, profondément. Alors, pourquoi on retrouve ça chez Pasolini, on pourrait le développer longtemps. Il ne faut pas négliger le fait que Pasolini, malgré le fait que c'est un grand transgresseur, Pasolini est chrétien, profondément chrétien. C'est pas un hasard si Pasolini réalise par ailleurs cet autre grand film qui est La Passion selon saint Matthieu, qui est un chef-d'œuvre, qui est une lecture aussi de la Passion christique remarquable. Quoi. C'est une lecture. C'est plus fort qu'un autre film qui revisite le christianisme, qui est Marie de Jean-Luc Godard. Marie de Godard, je vous salue Marie, oui. Ah, c'est un grand film aussi. Je crois que Godard a compris profondément le sens de Marie. Ce qui explique d'ailleurs que ce film, quand il est paru dans les salles en France, a été violemment attaqué au point qu'il y a eu plein de salles qui ont dû fermer par les intégristes catholiques. Ah non, non. Là, son propos est d'idéologie occidentale, honnêtement. C'est pas juste. Je préfère... parce que c'est pas... La différence, c'est que Leïla Dakhli, c'est une spécialiste des sciences humaines, d'accord, elle est sociologue, en gros. Ou plutôt, elle fait de la sociologie politique. Donc, elle fait à partir d'une grille qui est la grille de la pensée occidentale des sciences humaines. C'est beaucoup plus intéressant de voir le point de vue de deux autres personnes sur l'islam, qui est le point de vue de savants, qui est Souad Ayada. Souad Ayada, c'est une femme qui est philosophe d'origine marocaine, qui est l'épouse par ailleurs de l'autre dont je veux parler, Christian Jambet. Souad Ayada, elle était inspectrice générale de l'éducation nationale pour la philosophie. C'est elle qui défend contre vent et marée le maintien de la philosophie dans les programmes de terminale. Parce qu'il y a une pression énorme pour supprimer la philosophie au niveau du lycée. Oui, alors, Souad Ayada, qui est admirable, mène le combat. Maintenant, elle est responsable, comment ça s'appelle? Elle est responsable présidente de la Commission nationale des programmes. Et là, elle se bat pour le maintien de la philosophie dans les programmes. Donc c'est quelqu'un constitué. Et par ailleurs, c'est une grande spécialiste de la philosophie islamique. C'est comme ça qu'elle a rencontré, puis s'est mariée avec Christian Jambet, Christian Jambet, qui est un très bon copain, qui est un des grands philosophes contemporains, que j'avais fait venir aussi, tu vois, voilà. Et Christian Jambet, qui est l'héritier intellectuel de cette grande figure qui est morte maintenant, qui était Henri Corbin. Henri Corbin, qui est le premier qui a traduit en français Heidegger. D'accord ? Et qui ensuite a abandonné les études philosophiques pures pour s'intéresser à cette frange de l'islam qu'est l'ismaélisme. L'ismaélisme, ça vient d'Iran, c'est une des deux branches de l'islam chiite. Il y a deux branches, l'ismaélisme d'un côté, et l'autre c'est les déodécimains. Alors, ça veut dire 12. La différence entre ces deux branches du chiisme, c'est que dans un cas, ils pensent, les duodécimains, ils pensent qu'il y a eu 12 imams qui se sont succédés jusqu'à l'imam caché. Il y a une proximité entre le chiisme et le christianisme, et bon, on s'embarque pas là-dedans, alors que les ismaéliens pensent qu'il y a eu que 7 imams qui se sont succédés jusqu'à l'imam caché. Et les imams étant des incarnations divines, hein, étant les porteurs de la vérité de Dieu, quoi. Jusqu'à l'imam caché, c'est-à-dire que l'imam disparaît, on ne le voit plus. Ça, c'est les ismaéliens. Donc l'ismaélisme, c'est cette branche qu'a étudié Corbin, et celui qui a pris la relais et qui a été titulaire de la chaire des études ismaéliennes à l'école pratique des hautes études, c'est Christian Jambet, grand philosophe par ailleurs. Et pourquoi Corbin puis Jambet se sont intéressés à cet ismaélisme? Parce que c'est l'ismaélisme qui a poursuivi le plus longtemps la tradition platonicienne et aristotélicienne. C'est-à-dire que ça se prolonge jusqu'à quasiment la fin du Moyen Âge. Il y a des philosophes ismaéliens qui creusent toujours le commentaire platonicien et néoplatonicien, quoi. Et c'est ça qui les intéresse. C'est-à-dire que c'est un islam complètement éclairé, quoi. Le wahhabisme, c'est une branche de l'islam saoudien, hein, qui est l'islam sunnite. Et contrairement à ce que les Américains ont cru, par leur ignorance crasse et criminelle, ils ont ciblé le chiisme et l'Iran sans comprendre que c'était beaucoup moins dangereux et qu'ils pouvaient même passer des accords intelligents avec le chiisme et l'Iran. Et ils ont délaissé, ils se sont alliés au sunnisme, et notamment au sunnisme saoudien et donc au wahhabisme, parce qu'ils pensaient que c'était moins dangereux et qu'on pouvait s'allier avec les Émirats Arabes Unis, avec le Qatar. Alors, économique, il faut jamais mettre toujours d'une façon, avec un mauvais marxisme, l'économique comme ce qui oriente certaines décisions. Par exemple, on dit le pétrole. C'est à cause du pétrole. C'est une pensée mécaniste et prouve. Pourquoi? Parce qu'il y a autant de pétrole et d'enjeux et d'intérêts économiques avec l'Iran, hein. Et en plus, l'Iran, il y a le pétrole et le gaz. D'accord? Et puis, une partie du golfe Persique est sous influence chiite et non pas sunnite. Donc, c'est plus une pensée ignorante qui fait que les États-Unis a privilégié les alliances avec l'Arabie Saoudite qu'un intérêt strictement pétrolier, quoi. Il faut lire Gramsci si on s'intéresse à juste titre au marxisme. Gramsci qui est ce grand marxiste italien, qui a montré comment en réalité il fallait être plus dialectique dans la lecture de Marx. Marx, vous savez, l'infrastructure qui serait le socle de la société, c'est les rapports de force économique, les forces productives. Et par-dessus cela se greffe une production culturelle, idéologique, qui n'est qu'une superstructure. Voilà, je le dis vite. Ce que dit Gramsci, c'est que c'est beaucoup plus compliqué que ça. C'est qu'en réalité, ça peut s'inverser. C'est-à-dire, ce qu'on dit être la superstructure peut être, à certains moments, l'infrastructure. Et l'histoire de Donc Gramsci, c'est le début du XXe siècle. L'histoire montre comment Gramsci a raison dans son analyse beaucoup plus subtile qu'une pensée trop mécaniste et figée. Voilà. C'est pour dire qu'attention, n'ayons pas le réflexe de dire c'est aussitôt le pétrole. Par exemple, on peut montrer comment la guerre du Golfe du premier Bush est une guerre qui n'est pas déterminée par le pétrole. Je suis désolé, c'est une analyse simpliste. Elle est déterminée par le protestantisme dont les Bush étaient complètement imprégnés, une forme de protestantisme qui est liée aux anabaptistes au départ, et qui est liée antérieurement à un courant qui est un des courants de la réforme, qui est le courant qui s'est développé dans la Suisse zurichoise, que tu dois bien connaître, qui est le courant de ces communautés, et le nom m'échappe à l'instant, Zwingli. Le réformateur Zwingli, voilà. Qui est le foyer qui a développé les mouvements des iconoclastes, par exemple. Les iconoclastes, c'est ceux qui allaient dans les églises pour détruire toutes les représentations visuelles du sacré. Voilà. Bref, ce courant s'est transformé peu à peu, je passe sur toute l'histoire, parce que alors, on ne va pas s'en sortir. C'est devenu après les anabaptistes, et c'est des courants très puissants aux États-Unis. Et d'ailleurs, d'une certaine manière, les évangélistes ont à voir avec cette source du protestantisme. Et ils sont pro-Trump, mais ils ont été pro-Bush, etc. Et les Bush n'ont pas d'autre intelligence de la société et du monde qu'ils n'avaient pas d'autre intelligence que de la société et du monde que ce catéchisme anabaptiste. Et ils étaient persuadés, si vous vous souvenez de toute la rhétorique de Bush au moment de la guerre, les pères et fils au moment de la guerre du Golfe, c'est-à-dire, c'est le mal, c'est Satan. On est les croisés qui allons détruire Satan là où il est, en Irak. Et c'est une rhétorique dont il faut comprendre les fondements et qui est extrêmement importante. Bref, revenons au point de départ. Donc tout ceci pour dire que Nietzsche veut attaquer toutes les philosophies morales à coups de marteau. À coups de marteau. Et aussi la métaphysique qui est derrière, parce que la métaphysique va être le fondement, le support, le pilier de cette morale qui, pour Nietzsche, on va préciser les choses, est une morale qui va complètement intoxiquer, asphyxier, affaiblir jusqu'à la décadence la société européenne. Alors, quel est l'outil intellectuel? Je l'avais évoqué l'autre fois, mais il faut y revenir beaucoup plus profondément. Théorique, disons, que Nietzsche utilise. C'est le constat de la mort de Dieu. Le constat de la mort de Dieu, qui est une formule qu'il reprend, donc on l'a déjà dit, je n'y reviens pas, de Dostoïevski, sauf que la formule, si Dieu est mort, tout est permis, c'est pas du mot à mot, hein, c'est le sens, effectivement, de tout ce passage des frères Karamazov. Et il ne faut pas oublier que Dostoïevski reste chrétien. Hein. Sauf que au XIXe siècle, dans la seconde moitié du XIXe siècle, et ça va se développer au XXe siècle, que Dieu soit mort devient un postulat de la société européenne. Ce n'est plus l'expression d'une angoisse, c'est un postulat, un constat. On ne peut plus penser nos existences, on ne peut plus penser le monde sur l'idée de Dieu, qui était la pierre angulaire de toute la vision de l'homme et de la société, et donc la pierre angulaire des constructions morales, et donc de la philosophie. Oui. Donc, le principe qui fait tenir tous les défis s'effondre. Pour à la fois prendre de la hauteur par la poésie, je vous donne, on va lire et commenter ce texte, parce qu'il est très important, qui est un texte de Mallarmé, donc. C'est un poème qui est très connu de Mallarmé, qui est de 1864. Je rappelle les dates de vie de Mallarmé. 1842 qui sont dans le texte. 1898. Ce qui veut dire que Mallarmé est le strict contemporain de Nietzsche. Strict contemporain. Nietzsche à 2 ans près. Donc, ce poème s'appelle L'Azur et il est connu, mais c'est comme les poèmes ou les choses connues, en fait c'est connu et c'est complètement inconnu. Il date de 1864 et c'est l'expression complète du constat de Nietzsche. Je le lis. De l'éternel azur, la sereine ironie. Azur, vous noterez qu'il met A majuscule, et c'est... Il faut savoir que Mallarmé, c'est une précision chirurgicale. C'est-à-dire que rien n'est laissé au hasard. Donc s'il met une majuscule, ça fait sens parce que c'est insignifiant. Donc, de l'éternel azur, la sereine ironie, accable, belle indolemment comme les fleurs, le poète impuissant qui maudit son génie, à travers un désert stérile de douleur. Notez aussi le D majuscule à douleur. Dans la douleur avec un D majuscule, ça ne peut qu'évoquer la mater dolorosa, c'est-à-dire la douleur de la Vierge Marie et la douleur de Jésus le crucifié. Hein? Fuyant les yeux fermés, je le sens qui regarde avec l'intensité d'un remords atterrant. Mon âme vide. Où fuir? Et quelle nuit hagarde jeter lambeau, jeter sur ce mépris navrant? Brouillard, montez, versez vos cendres monotones avec de longs haillons de brume dans les cieux, que noira le marais livide des automnes et bâtissait un grand plafond silencieux. C'est magnifique comme poésie. Et toi, sors des étangs létéens et ramasse. Létéen, c'est l'allusion au fleuve Lété, qui est le fleuve dans la mythologie grecque de l'enfer et de l'oubli. Enfer et oubli allant de pair. Et toi, sors des étangs létéens et ramasse, en t'en venant la vase et les pâles roseaux, cher ennui, pour boucher d'une main jamais lasse les grands trous bleus que font méchamment les oiseaux. Encore, que sans répit les tristes cheminées fument et que de suie une errante prison éteigne dans l'horreur de ces noires traînées, le soleil se mourant jaunâtre à l'horizon. Le ciel est mort. Ça, c'est le nœud du poème. Le ciel est mort. Vers toi, j'accours, donne aux matières l'oubli de l'idéal cruel et du péché, à ce martyr qui vient partager la litière où le bétail heureux des hommes est couché. Car j'y veux, puisqu'enfin ma cervelle, vidée comme le pot de phare gisant au pied d'un mur, n'a plus l'art d'attifer la sanglotante idée, lugubrement bâillée vers un trépas obscur. En vain, l'azur triomphe. Et je l'entends qui chante dans les cloches, mon âme, il se fait voix pour plus, nous faire peur avec sa victoire méchante, et du métal vivant sort en bleuze angélus. Il roule par la brume, ancien et traverse ta native agonie, ainsi qu'un glaive sûr, ou fuir dans la révolte inutile et perverse. Je suis hanté, l'azur, 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 l'azur. Ce poème est extraordinaire, c'est un des plus beaux poèmes de la langue française, profondément, et il a une signification d'une profondeur métaphysique très, très forte. Alors, mais c'est beaucoup plus fort que Baudelaire. Vous voyez, On va pas le commenter pendant trop longtemps, mais vous voyez le sens profond. C'est le poète qui est en quête toujours d'un absolu. C'est même, je dirais, le boulot du poète, comme du philosophe, d'être à la quête de l'absolu. Le poète échoue. Son âme est vide. Il échoue à trouver l'absolu parce que son constat implacable, c'est que le ciel est vide, le ciel est mort. Dieu est mort. Profondément, c'est ça, quoi. Dieu est mort, le ciel est vide. Et du coup, c'est l'ennui qui triomphe. La boussole est perdue. Hein, l'oubli de l'idéal cruel et du péché. C'est-à-dire que, il n'y a plus de boussole. Le péché, c'était une boussole. L'idéal, c'était une boussole qui pouvait être cruelle. C'est la boussole qui indiquait le bien et le mal, le vrai et le faux. Cette boussole, il faut l'oublier, elle n'existe plus. Donc le ciel est vide, Dieu est mort, et il n'y a plus de boussole. Donc il n'y a plus de morale possible qui oriente l'existence, il n'y a plus de bien et de mal, il n'y a plus de vrai et de faux. Donc sa cervelle est vidée et elle ne peut plus actifer la sanglotante idée. C'est-à-dire qu'on ne peut plus habiller le monde, sa représentation du monde, par des belles idées. Parce que, alors, ce qui peut sauver, c'est la création artistique, c'est l'art, c'est la poésie. C'est la beauté. En d'autres termes, c'est la beauté. Ce qu'on va retrouver chez Nietzsche. La beauté peut sauver. Je l'entends qui chante dans les cloches mon âme, etc. Et du métal vivant sort en bleu angelot. Donc la beauté peut sauver et le poète peut trouver cette issue par la beauté, par le culte de la beauté. Le problème, c'est que la beauté, pour Mallarmé et pour le poète, eh bien, la beauté n'est pas possible. N'est pas possible. En vain l'azur triomphe, en vain. C'est que c'est vain. L'art est vain. L'art est vain. La beauté, bon, on pourrait passer des heures. Mais simplement, sans entrer dans le détail, en se situant proche de Mallarmé, pour lui, la beauté, c'est l'art. C'est que l'art apporte un salut. C'est le salut par l'art, la poésie. Hein, la poésie et l'art, pour Mallarmé, c'est la même chose. Vous savez que Mallarmé fait partie de ces Français qui, à la fin du 19e, croient vraiment, jusqu'à échouer, qu'on peut inventer un art total. D'où leur intérêt pour Wagner. L'art total, c'est-à-dire que l'art total qui engloberait toutes les formes du langage de l'art, donc la musique, les arts visuels, la poésie, etc. Et de ce point de vue-là, l'opéra wagnérien pouvait donner l'illusion ou l'espoir de la réalisation d'un art total, quoi, qui est comme le cinéma, mais qui n'existait pas à l'époque. Il se veut un art total. Et non, parce que déjà Mallarmé a constaté, et puis aussi Wagner, que l'art total était une illusion. Était une illusion. Donc la beauté, c'est ce qui peut être appréhendé par l'art. Voilà. C'est une création artistique. Sans entrer dans les approches métaphysiques qui nous entraîneraient tout loin. Mais si vous voulez, quand même, on revient à Platon. Il faut savoir que pour Platon, et Nietzsche en fait la critique, il y a un premier principe, l'un bien, qui définit que, alors c'est pas Dieu au sens après chrétien, mais c'est le même dispositif de pensée. Il y a un premier principe qui va orienter la vision du monde, l'existence, selon des équivalences, l'idéal de l'un bien correspond au bon, qui correspond au bien, qui correspond au vrai, qui correspond au beau. Tout ça, ce sont des équivalences. Ce qui explique que la philosophie issue de Platon a forcément trois parties. Si on veut construire un système philosophique, c'est une vision complète du monde, il y a forcément trois parties. La métaphysique, où on va s'intéresser à ce qui est vrai, au vrai. L'éthique, qui s'intéresse au bien, au bon, par opposition au mal, le vrai étant par opposition au faux. Et la troisième partie, c'est l'esthétique. L'esthétique qui correspond au beau, par opposition à ce qui n'est pas beau ou laid. Vous voyez, toute la pensée philosophique se construit à partir de Platon selon ces trois volets qui sont nécessairement liés entre eux. Et un philosophe qui se veut conséquent construit un système de pensée qui va articuler ces trois volets, la métaphysique, l'éthique. À l'éthique, je pourrais ajouter la politique qui est proche, mais bon. La métaphysique, l'éthique et l'esthétique. Sartre, ça va être notre prochaine étape. Mais Sartre essaie de construire un système où il y a les trois volets. Il y a une métaphysique chez Sartre, l'être et le néant. Il y a une éthique qu'il n'a pas pu mener jusqu'au bout, mais qui se traduit très clairement dans le livre posthume Cahier pour la morale. Et la troisième partie, c'est l'esthétique qu'il abordera à travers plein d'ouvrages, et notamment son Mallarmé. Notamment Baudelaire, et puis aussi il aura beaucoup d'écrit sur des peintres, etc. Voilà. Peut sauver l'âme humaine, peut sauver le monde. Le salut dans la beauté. C'est-à-dire que l'esthétique, c'est l'approche du beau, la méditation à partir de la contemplation du beau peut apporter, alors ça dépend, on peut le lire différemment. Par exemple, Aristote parlerait de ataraxie. L'ataraxie, c'est cet état de l'âme qui est dans la tranquillité. C'est la tranquillité de l'âme. C'est en fait être heureux. Et la contemplation de la beauté, de ce qui est beau, ça amène ce bonheur parce que ça procure la tranquillité de l'âme. Et je rappelle une fois de plus qu'en grec, théorie est un mot qui veut dire quasiment contemplation. Théorie, c'est en fait théos, oreine. C'est composé de ces deux mots grecs, théos. Donc théos, c'est Dieu. Mais Dieu au sens grec, c'est le premier principe, l'unité, l'harmonie. Et oreine, c'est le verbe qui veut dire voir. Donc la théorie, c'est ce qui voit l'un uni. Voilà le sens grec profond de théorie. Donc vous voyez que ça a à voir avec la contemplation. Et vous savez que Platon considérait que parmi les cinq sens, le sens qui était infiniment supérieur à tous les autres, c'est le sens de la vue. Parce que le sens de la vue, c'est le sens de la contemplation. Et c'est le sens qui maintient une distance. Contrairement, par exemple, au toucher, et créer du contact, il n'y a pas de distance. La vue, c'est la position de celui qui contemple, c'est de la distance. Alors, dans le judaïsme, c'est clairement l'écoute. Le judéo-christianisme, on ne va pas en parler maintenant, ça n'existe pas. Non, mais l'écoute, profondément, l'écoute, c'est le sens central du judaïsme, ça c'est clair. Parce que dans le christianisme, qui est très platonicien, La vue est centrale. Je pense que dans le christianisme, la vue est centrale. L'incarnation, tu peux pas établir une équation entre incarnation et toucher, parce que l'incarnation passe par les cinq sens. L'incarnation, c'est pas simplement le toucher. Oui, mais c'est aussi la vue. L'incarnation, c'est aussi la vue. Le dualisme. n'induit pas le manichéisme. Loin de là, même le christianisme, la philosophie chrétienne, a combattu le manichéisme. Donc attention à ne pas superposer manichéisme et dualisme. Le manichéisme, c'est un dualisme rigidifié, absolu. On peut penser de façon dualiste, de façon dialectique, par exemple. C'est-à-dire que le manichéisme, c'est que tu figes ta vision du monde, le monde, en deux catégories complètement séparées. Il y a d'un côté le bien, le vrai, de l'autre côté le mal, etc. Ça, c'est le manichéisme. Mais encore une fois, le christianisme a combattu le manichéisme. Mais j'insiste beaucoup sur le fait que ne superposons pas dualisme et manichéisme. On ferait une erreur complète, c'est pas la même chose. Parce qu'on peut avoir une pensée dualiste et par un mouvement dialectique de la pensée, c'est Hegel, c'est le marxisme. Le marxisme et Hegel partent de catégories duelles. Sauf que c'est mis en mouvement, c'est dynamique. Et c'est vrai que dans son œuvre de démolition qui correspondait à une nécessité d'une période sclérosée, Nietzsche a eu tendance à faire du dualisme une forme de manichéisme, quand même. Parce que c'était une nécessité pour lui de phase de destruction, de déconstruire pour construire après. Oui, mais il va l'appliquer jusqu'à sa critique de la science. Et la question que je pose comme ça, aujourd'hui il est de bon ton de critiquer systématiquement toute forme de dualisme. Sauf que, et notamment en pensant au dualisme platonicien entre le corps, la matière et l'âme, l'esprit, je vous demande simplement de réfléchir, on ne va pas développer la question, ça serait sans fin. Est-ce que la pensée humaine, dans ses constructions, peut sortir de toute forme, y compris dialectique, de dualisme? Je prends un simple exemple. La science moderne, mais y compris la science dure, y compris la mathématique, suppose une dualité des catégories de Bose. La mathématique suppose qu'il y ait une proposition vraie et une proposition non vraie, une proposition fausse. Si on remet en cause cela, il n'y a plus de mathématiques. La physique encore plus fortement affirme qu'il y a des propositions, des lois vraies et des lois fausses. Donc la science repose sur le vrai et le non vrai, le faux. C'est inévitable. Alors la physique quantique ne dépasse pas ça. Elle ne dépasse pas ça, la physique quantique. Et Einstein est loin de remettre en cause cela. La meilleure preuve, c'est qu'Einstein n'a pas remis en cause. C'est ça qu'il faut comprendre. Einstein n'a pas remis en cause Newton. Il n'a pas gommé Newton en disant c'est de la merde. Moi je fais autre chose contre le. Non, il pense à partir de Newton, c'est-à-dire qu'il remet pas en cause les catégories newtoniennes, c'est-à-dire qu'il va au-delà. Chez Einstein, il n'y a pas de remise en cause d'une proposition vraie, d'une proposition fausse. C'est simplement qu'il est dans, il introduit du mouvement dans cela. Il introduit du mouvement. Moi, je pense que si. Alors, mais ça, l'indécidable existe. L'indécidable est établi. C'est pas le problème. Et ça ne remet pas en cause ces catégories-là. Bien sûr, l'indécidable peut exister. L'indécidable dit simplement la limitation de l'esprit humain. C'est ça que ça veut dire. Mais tous les philosophes l'ont reconnu depuis le départ. L'indécidable n'est pas une remise en cause du vrai et du faux. Et par rapport à l'esthétique, j'aurais pu prendre, mais ça nous entraînait encore ailleurs, le poème de Baudelaire sur le beau. On dit, voilà, c'est la remise en cause du beau Parce que Baudelaire fait un poème à partir de la charogne, dont il fait une description, avec les vers qui grouillent. Sauf que Baudelaire, il ne remet pas en cause le beau. Qu'il dit, c'est que le beau peut se nicher, y compris là, y compris dans ce qu'on a pu penser comme laid. Donc, il ne détruit pas l'idée du beau, il ne la détruit pas. Le beau ne se détruit pas si on est dans l'esthétique et dans l'art, c'est impossible. On pourrait dire, à la limite, et en même temps c'est pas vrai, que les punks tentent de détruire complètement le beau. Sauf que le punk, la punkitude, c'est une esthétique. Donc, c'est une esthétique qui... Oui, donc ça ne détruit pas le beau. Ça ne détruit pas le beau. Donc, je ne veux pas aller plus loin là-dessus, mais je vous demande simplement de réfléchir à fond sur ce questionnement. Peut-on penser en faisant l'économie de ces catégories-là? Peut-on penser en faisant l'économie de ces catégories-là? Mais c'est un autre problème. Que ça soit subjectif n'enlève pas que l'on pense à partir du beau et du laid. Simplement, l'idée de subjectivité, ça veut dire que l'instant de vérité est lié à une décision personnelle. C'est plus que l'émotion. L'émotion pure, c'est avant le beau. Le beau, c'est une élaboration mentale à partir d'une émotion. C'est une représentation à partir de l'émotion. Qu'il y ait l'émotion à la base, c'est une chose, mais ça ne se réduit pas à l'émotion, le beau. Voilà, simplement, qu'il y ait de la subjectivité, on peut ne pas le mettre en cause. Après, ça engage à un autre problème, c'est la conception qu'on a de l'universel. Qu'il y ait dans l'idée de vrai, dans l'idée de bien, dans l'idée de beau, une décision subjective du sujet, je l'admets volontiers. Mais admettre ça n'est pas détruire l'idée du beau, l'idée du vrai, l'idée du bien. On reviendra sur ça à la fin de notre parcours sur Nietzsche. Si, c'est ce que je disais. Pour Nietzsche, l'issue, elle est aussi celle de Mallarmé. C'est l'esthétique, c'est le beau, c'est l'art, c'est l'art. Pour Nietzsche, comme pour Mallarmé, l'issue est par le beau, la voie du beau. Sauf que le poème de Mallarmé, la force de ce poème, c'est un échec. C'est un échec. Ce poème indique l'échec. Ou fuir dans la révolte inutile et perverse. C'est-à-dire que Mallarmé était d'un milieu chrétien très prononcé. On peut lire ça du point de vue de la vie de Mallarmé. Et Mallarmé perd la foi chrétienne, notamment suite à deux morts successives qui le frappent profondément. La mort des deux femmes qu'il aimait par-dessus tout, sa mère et son amante, son amie. Qui meurt, et aussi, j'oubliais, c'est décalé dans le temps, mais c'est dans la même période, sa sœur. En fait, il a trois morts. Et d'ailleurs, ça me trouble beaucoup, parce qu'il y a un des plus grands, à mes yeux, saxophonistes de jazz, qui est quelqu'un d'extraordinaire que je ne saurais que trop à écouter. Si vous avez un tantinet, une oreille jazzman, c'est Wayne Shorter. Wayne Shorter, c'est quelqu'un qui est un vieux monsieur. Wayne, c'est W-A-Y-N-E, comme John Wayne, mais là, c'est le prénom. Et Shorter, c'est comme plus court, c'est S-H-O-R-T-E-R. Et il a joué longtemps avec des ensembles où il était le saxo. Il a notamment beaucoup joué avec l'inventeur du flûte jazz, Miles Davis. Et depuis un moment... Il a fait lui-même sa propre formation, un trio, un quartet avec lui, remarquable, pianiste, batteur. Et il a édité plusieurs albums. Et sur Wayne Shorter un instant, c'est pas pour en faire la promo simplement, mais ce qui me frappe incroyablement, c'est que Wayne Shorter est au jazz, ce que Mallarmé est à la poésie. Dans ce sens suivant, Il faut écouter le sax de Wayne Shorter. Il a une beauté qui est de l'ordre de l'expression de la douleur. Ça arrache les larmes. C'est pourtant du free jazz, hein. C'est pas de la mélodie qui flatte le sentiment. C'est du free jazz. Mais son sax arrache des cris. C'est des cris de douleur absolue, quoi. Un peu comme Mallarmé, là. Et c'est ça qui crée la beauté. C'est une beauté incommensurable. Et Wayne Shorter, il se trouve que ce qui l'inspire depuis qu'il est soliste, c'est qu'il a perdu la même année les trois femmes qu'il aimait. Sa mère, sa femme, sa fille. Il perd ces trois femmes la même année. Et vous voyez le parallèle qui est appareillé. Alors, on va dire... Alors, il y a des critiques qui détestent ce que je suis en train de faire, qui disent qu'il ne faut jamais mêler l'âme à l'analyse de l'œuvre. Ça, c'est une connerie monumentale. Même le plus grand critique littéraire qui vient de mourir, ce qui est Jean-Pierre Richard, il n'hésitait pas à utiliser aussi les éléments d'analyse biographique pour étudier une œuvre. Voilà. Et Wayne Shorter, dans une interview qui m'a profondément marqué, il a dit « Moi, je fais de la musique parce que c'est ce qui m'évite de devenir fou. De devenir fou à cause de ma souffrance liée à ces trois morts. » Et c'est ce que ça renvoie à ce que je disais une fois, schématiquement. C'est en ce sens-là, et Mallarmé, c'est ce qu'il dit, la révolte par nature, si on en reste à la révolte, c'est mortifère. Elle est inutile et perverse. Il faut passer de la révolte à la révolution. Alors, c'est une formule. Bien sûr qu'il ne s'agit pas de dire on va... Mais ça peut être une révolution intérieure. Sartre parlait de conversion. J'utilise ce terme volontairement parce que c'est provocateur. Mais je l'utilise d'autant plus à l'aise que Sartre, on ne peut pas le soupçonner d'avoir une acception chrétienne ou théologique ou religieuse de l'expression conversion. Hein. La conversion, littéralement, cum vertere, c'est un tournement, c'est se tourner, c'est changer d'orientation. C'est une révolution. C'est changer d'orientation. C'est ça une conversion. Et ça peut être ça la révolution, c'est transformer la pure révolte en conversion, si on ne veut pas le mot révolution qui est trop chargé d'idéologie politique, peu importe. Le problème, c'est que Mallarmé n'y est pas parvenu, c'est clair. Mallarmé voulait faire le livre à venir, avec un grand L, et le livre à venir pour Mallarmé, c'était le livre qui remplacerait la Bible. C'était ça son ambition. En fait, il a écrit deux livres sur Mallarmé. Mais c'est des livres qui partent sur autre chose, je ne vais pas en parler, qui partent sur... Il faut lire l'analyse de Milner à partir de l'enchaînement qu'il fait entre Victor Hugo, Baudelaire, Mallarmé. Victor Hugo, c'est la révolution. Baudelaire, c'est la réaction. C'est un profond réactionnaire, Baudelaire. Et Mallarmé, c'est le dépassement. Voilà, mais ça nous entraîne sur autre chose. Donc, pour terminer avec le parcours de Mallarmé, qui nous éclaire par rapport à Nietzsche, parce qu'il y a vraiment une correspondance totale. Donc, perte de la foi après la perte de ces trois femmes aimées. Expérience du néant. Pour sortir du néant, Mallarmé croit au beau. Il devient poète, il se lance dans la poésie. Pour lui, l'art, la poésie, le beau, l'appréhension du beau, c'est ce qui va l'arracher au néant. Le problème, c'est qu'il fait le constat que cette possibilité de retour au monde et à la vie que lui permettrait le beau, la poésie et l'art, est impossible. Pourquoi ? Parce qu'il bute sur un constat, qui est son constat à lui, mais qu'on peut décliner autrement. Il bute sur l'impuissance, c'est ces termes, l'impuissance de l'écriture. Pour Mallarmé, qui était sans concession par rapport à l'écriture, qui se satisfait pas de faire des belles rimes et des beaux vers, qui pour lui c'était plus sérieux que de faire des beaux rimes, et des belles rimes et des beaux vers. Pour Mallarmé, son constat d'expérience, c'est qu'il y a une impossibilité de l'écriture. C'est-à-dire que l'écriture échoue à atteindre l'absolu, à atteindre le beau. Et c'est profondément le sens de ce poème. C'est pour ça que Mallarmé, d'ailleurs, c'est un homme humainement qui est remarquable. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'avait, et même déjà au XIXe siècle, aucune préoccupation de notoriété, aucune préoccupation de briller sous les feux de la rampe. Il n'en avait rien à faire, et Mallarmé disait, si je ne suis lu que par 50 personnes, ben c'est très bien. Contrairement à Baudelaire et Anco, qui n'avaient que de soucis d'être sous les feux de la rampe. Mallarmé est d'une modestie absolue, et pourquoi cette modestie? Sa modestie, fondamentalement, c'est qu'il ne se méprenait pas sur la valeur de ce qu'il faisait. Parce que son expérience vécue, c'est que sa poésie, pour lui, elle ne vaut pas grand-chose. Avec qu'il y ait une dimension subjective de l'évaluation du beau, du bien, du vrai, oui, mais ça n'enlève pas la question. Elle est à un niveau subjectif, oui. Oui, il y a une dimension subjective. C'est l'expression de la douleur d'un échec, fondamentalement. En vain l'azur triomphe, en vain. C'est vanité des vanités. On pourrait retrouver Mallarmé qui lisait beaucoup la Bible et qui lisait beaucoup, qui était très instruit de la Bible, qui était très instruit notamment de toutes les parties poétiques de la Bible. Il y a quelque chose qui est très proche du livre de Job par certains côtés de Job. Oui. Il l'a mis en tête, c'est que ça commande. Mais la strophe, oui, mais s'il a mis en vain en tête, c'est que ça commande la suite. C'est ce qui commande la suite. Non, c'est qu'il est hanté par la question du beau, par la question de l'azur. C'est la fin du poème. Je suis hanté. L'azur, 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 l'azur. Je suis hanté. Mais ça lui procure pas la tranquillité de l'âme parce que il n'arrive pas. Il poursuit ça, mais il n'y arrive pas. C'est ça le. Alors, si je faisais mon Lacan, on pourrait dire que le drame de Mallarmé, c'est qu'il est mal armé. C'est-à-dire que, oui, ben oui, mais Mallarmé, le mouvement de Mallarmé dans le poème, mais qu'on retrouve, t'as raison, le mouvement de Mallarmé dans le poème, mais qui est le mouvement de sa vie, il a la foi, il perd la foi, c'est une perte absolue. Et il pense que la poésie, l'art, peut être un substitut, et cette substitution ne marche pas. C'est ça. Mais alors, la question que je vous pose, est-ce que l'Occident même, qui se revendique complètement laïque, a une autre vision que religieuse de l'art? Ça, alors là, ben je pense que le christianisme contemporain, c'est l'art. C'est-à-dire qu'on a une forme de sacralisation de l'art. Ben oui, donc oui, mais du coup, ça veut dire quoi? Du coup, ça veut dire que c'est normal que. Mais oui, mais si on fait semblant, c'est ce qu'il dit. Si on fait semblant et qu'on est lucide sur le fait qu'on est dans le semblant, si on est conscient que et lucide sur le semblant. Je vous propose de laisser Mallarmé poème. C'est pas lié au fait d'être croyant ou pas, parce que ce poème, je veux dire, il a inspiré plein de non-croyants, plein d'athées. Donc c'est pas lié au problème d'être croyant ou pas. C'est que après, c'est que ça, c'est comme là. Après, c'est la dimension subjective. Oui, on pourrait le dire également comme ça. Oui, mais Jacques, bon, il faudra une discussion, mais tu veux aller jusqu'au bout de ce qui est une impasse pour toi. Une impasse pour toi. Tu veux aller jusqu'au bout d'une position absolument athéologique. Revenons à Nietzsche, là où on en était, revenons sur la question donc de la mort de Dieu, qui induit donc chez lui l'impossibilité d'une boussole, Et donc, la déconstruction complète, à coup de marteau, des catégories donc du bien et du mal, ça c'est pour la morale, mais aussi des catégories du vrai et du faux. C'est là qu'on comprend, c'est l'équivalence platonicienne entre le vrai et le bien qui permet de comprendre pourquoi Nietzsche remet en cause la science de son époque. Parce que la science suppose le vrai. Entendre la parole de Nietzsche, je vous propose qu'on lise ce qui peut illustrer ça. Un des textes que je vous ai donné dans la généalogie de la morale, c'est, je crois, le dernier texte qui est la première dissertation 12, paragraphe 12. Dans la généalogie de la morale, c'est le dernier texte qui précise ce que je vais de dire. Je ne puis ici étouffer un soupir et refouler un dernier espoir. Qu'est-ce donc qui m'est tout à fait insupportable, particulièrement à moi? De quoi ne puis-je absolument pas venir à bout? Qu'est-ce qui me suffoque et m'abat? Air vicié, quelque chose de mal s'approche de moi. Quelque chose de mal, hein, entre parenthèses. Hein. Faut-il que je respire les entrailles d'une âme manquée? Que ne supporte-t-on pas, en fait, de misère, de privation, d'intempérie, d'infirmité, de soucis et d'isolement? Au fond, nous pouvons venir à bout de tout cela tel que nous sommes, nés pour une existence souterraine, pour une vie de combat. On finit toujours par revenir à la lumière, l'on a toujours son heure dorée de victoire, et l'on se dresse alors tel qu'on est né, infrangible, esprit tendu, prêt à atteindre des buts nouveaux, des buts plus difficiles, plus lointains, tendus comme un arc que l'effort ne fait que tant davantage. Mais de temps en temps, accordez-moi, si du moins vous existez, par-delà le bien et le mal, ô protecteur divine. Accordez-moi un regard que je puisse jeter sur quelque être absolument complet, réussi jusqu'au bout, heureux, triomphant de la part de qui il y ait toujours quelque chose à craindre. Ben cet être, c'est Dieu, quoi. Dieu, c'est un regard sur un homme qui justifie l'homme, sur un coup de bonheur qui apporte à l'homme son complément et son salut, grâce auquel on pourrait garder sa foi en l'homme. Car voici ce qui est, le rapetissement et le nivellement de l'homme européen cachent notre plus grand danger. Ce spectacle rend l'âme lasse. Nous ne voyons aujourd'hui rien qui permette de devenir plus grand. Nous pressentons que tout va en s'abaissant pour se réduire de plus en plus à quelque chose de plus mince, de plus inoffensif, de plus prudent, de plus médiocre, de plus indifférent encore jusqu'au superlatif des chinoiseries et des vertus chrétiennes. L'homme, n'en doutons pas, devient toujours meilleur. Oui, le destin fatal de l'Europe est là. Ayant cessé de craindre l'homme, nous avons cessé de l'aimer, de le vénérer, d'espérer en lui, de vouloir avec lui. L'aspect de l'homme nous lasse aujourd'hui. Qu'est-ce que le nihilisme, si ce n'est cette latitude-là? Nous sommes fatigués de l'homme. Voilà. Donc, ce texte permet de voir, d'éprouver sensiblement ce que Nietzsche entend par la remise en cause de la plus explicitement de la morale chrétienne, du bien et du mal. Il le met de façon sensible, ce texte, nous en donne l'expérience sensible. Et ça permet de comprendre un élément existentiel et essentiel qui est lié à l'époque de Nietzsche, c'est que la morale de l'époque de Nietzsche, chrétienne ou laïque, crée un air vicieux qui fait qu'on ne respire plus. On s'étouffe. Nietzsche étouffe dans cet environnement, quoi. C'est un air irrespirable. C'est ça l'expérience de Nietzsche. Et qui l'amène à cette révolte, c'est que je veux respirer, je veux sortir de ce marasme, de cet étang glauque. Là, c'est une atmosphère, c'est pas un carcan, là, c'est vraiment, il le décrit comme une expérience corporelle d'atmosphère étouffante, toxique, irrespirable, quoi. C'est l'atmosphère de la société dans laquelle vit Nietzsche. On peut trouver le parallèle quelque temps à peine après chez Freud, qui ne le dit pas en ces termes-là, mais Freud pense la maladie de l'âme, la maladie de la psyché, à partir du constat que la société bourgeoise viennoise, catholique, est irrespirable, est mortifère, est source de maladie, quoi. C'est chez Zweig, enfin tous les Autrichiens de l'époque, tous les Viennois de l'époque, quoi. C'est aussi pour ça que parallèlement va se développer la musique dodécaphoniste des Viennois, ça a un rapport direct avec ça. C'est-à-dire qu'ils en ont marre des valses viennoises. Le monde d'hier, oui. Il y a deux choses, il y a le monde d'hier et son journal. Et son journal qui est remarquable. Voilà, donc l'expérience existentielle de Nietzsche, il l'exprime bien, c'est une expérience quasi physique, quasi corporelle, qui anime sa pensée. Il faut se sortir de cet étouffement, de cet air irrespirable. Il faut s'élever pour retrouver de l'air, et ce qui rend cet air irrespirable, c'est effectivement cette société pétrie de cette morale. Donc là, il y a un mouvement qui est très intéressant, c'est un mouvement qu'il ne faut absolument pas rejeter, même si on en présume après les problèmes et les impasses. Je vais venir sur ce point qui est très important, mais j'ajouterai ceci, c'est que pour lui, donc, cet air irrespirable, c'est donc toute cette morale chrétienne et laïque, hein, cette vision de l'homme et du monde basée sur le bien et le mal, quoi. Hein, voilà, c'est clair, mais aussi sur le vrai et le faux, parce que ça concerne aussi la science. Et ça concerne aussi l'art, au fond. On le verra plus tard chez Nietzsche, mais c'est aussi... Il vit aussi l'impasse de Mallarmé, c'est-à-dire que l'art, c'est-à-dire le beau, ne sauve pas. Hein, il y a vraiment pour moi une grande proximité existentielle et aussi métaphysique entre Mallarmé et Nietzsche. C'est indubitable, quoi. Alors, venons-en à la question de l'homme qu'il veut sauver. Le constat pour lui, c'est que cette ère toxique produit le nihilisme ambiant. C'est en ce sens-là qu'il faut éviter un malentendu, une erreur de lecture de ceux qui ne savent pas lire Nietzsche. L'erreur de lecture consiste à dire, ben Nietzsche, c'est celui qui est nihiliste, il a une pensée nihiliste. Alors que Nietzsche, là, il remet en cause cette ère toxique, cette société toxique qui est nihiliste. Donc le nihilisme, dans ce que j'ai lu, est très clair pour Nietzsche, c'est cette société irrespirable qui crée un individu mortifère. Un individu, c'est cette société mortifère qui tue, qui rend l'homme décadent. Et vous savez... qu'à l'époque, et alors particulièrement en France, côté de l'art, le dandysme, c'est un décadentisme. C'est le constat qu'on est dans un monde décadent. Et du coup, allons-y, on va retrouver ça chez les punks un siècle plus tard. C'est le même mouvement. Et d'ailleurs, il y a une chanteuse contemporaine que j'aime beaucoup, que j'avais fait venir d'ailleurs à l'abbaye, qui a fait tout un programme de chansons et un spectacle sur le dandysme et qui montre cela à travers les chansons qu'elle a suivies, parce qu'elle part de Baudelaire et elle arrive au punk. C'est Barbara Carlotti qui est une des chanteuses intelligentes d'aujourd'hui, Barbara Carlotti. Mais Wayne Shorter, j'insiste, hein, ceux... Non, mais j'insiste négativement. Je ne veux pas embarquer certains dans un rejet définitif de Wayne Shorter. Ceux qui n'aiment pas du tout de près ou de loin le free jazz, c'est pas la peine, parce que vous allez détester. Mais c'est un free jazz très beau, qui peut être beau. Ça rejoint d'ailleurs... Ouais, il me voilà embarqué là encore là-dessus. Ça rejoint le meilleur, ça a été la dernière partie de John Coltrane. Quand John Coltrane est dans une quête spirituelle, sa musique est magnifique. C'est du free jazz qui est magnifique. Et ça rejoint ce Wayne Shorter rejoint ce John Coltrane-là. Au fond, la souffrance inévitable du monde, de l'existence, ne peut avoir une positivité que si on la transcende. Qu'on la transcende par la musique, par l'art, par tout ce qu'on veut. C'est la sublimation, oui. Mais permettez-moi, je provoque volontairement Jack, la sublimation qu'on retrouve dans l'art, qu'on retrouve chez Freud, la sublimation qui est une voie du salut. Qu'est-ce que c'est? Si ce n'est une structure chrétienne au départ. Ah oui, non, mais c'est un peu plus dans l'histoire, dans la généalogie de la pensée occidentale, c'est un peu plus, c'est quoi? C'est la figure christique. C'est la figure christique. Dans l'horizon chrétien, dans lequel on ne se sort pas. Je veux dire, on pourrait dire qu'à partir de là, en fait, Jack, pour t'en sortir de l'horizon chrétien, il faut que tu te tournes complètement vers le bouddhisme ou le shintoïsme et le zen. Voilà. Là, tu vas avoir des catégories très différentes. Pas de rien. C'est pas. Je pense que t'as un défaut que je connais bien pour mon propre part, un défaut existentialiste sartrien. T'es un sartrien au fond. C'est-à-dire que tu penses qu'il peut y avoir une renaissance. Non, c'est pas une étiquette, c'est que ça renvoie à une pensée. On peut avoir une renaissance, il y a une nouvelle naissance, qui est la naissance que l'individu sujet qui veut assumer sa liberté va se faire. On ne pense pas à partir de rien. Et on ne crée pas à partir de rien, on crée à partir de tout ce qu'on a intégré. Et le problème, c'est pas de mettre des étiquettes sur eux. Le problème, c'est de trouver à partir de quoi on pense, même si sur le coup, on s'en est pas rendu compte. On pense toujours à partir d'un déjà donné. Il y a une illusion de l'homme contemporain, qui est de dire, on pense à partir de rien, à partir d'un ex nihilo. On invente tout. C'est faux. Ça, c'est l'illusion contemporaine. On pense toujours à partir d'un déjà là, d'un déjà donné. Et la question, c'est d'être un peu lucide sur ce qui est déjà donné dans ce qui nous fait penser. Parce qu'autrement, on pense aveuglément. On pense aveuglément. Comme dirait Lacan, dans ce cas-là, on pense pas je, on peut pas dire je pense, ça pense en moi. La question, c'est ça pense en moi. Et toute la question, c'est si on veut assumer un je, c'est-à-dire une subjectivité de la pensée, parce que le ça pense en moi, c'est l'échec de la subjectivité, pour le coup. C'est impersonnel. IM, personnel. Si on veut assumer une pensée subjective, c'est-à-dire une pensée d'un je-sujet, il faut impérativement se retourner sur soi pour penser à quel est le ça aveugle qui nous fait penser. Et alors là, une subjectivité peut apparaître. Mais sans ça, c'est pas la peine. Sans ça, c'est pas la peine. Alors, Nietzsche n'abandonne pas cette idée de l'homme. Sauf que je vous renvoie à, probablement au meilleur en langue française commentateur et prolongement de Nietzsche, qui est Michel Foucault. Michel Foucault, qui a eu une œuvre indépassable, en langue française, hein. Son terreau, c'est pas que celui-là, mais quand même, une bonne partie de son terreau, c'est Nietzsche. Or, c'est dans la volonté de savoir, qui est un petit livre déterminant, dans la volonté de savoir, Foucault, précision, la volonté de savoir, c'est le tome 1, c'est le tome introductif de son histoire de la sexualité qui est restée inachevée parce qu'il est mort avant. Donc son histoire de la sexualité qui doit avoir, qu'à chaque fois un titre différent, qui doit avoir 4 ou 5 tomes si on ajoute la volonté de savoir. Donc dans la volonté de savoir, Nietzsche reprend d'une façon quand même, Foucault reprend d'une façon d'ailleurs beaucoup plus facile un autre livre antérieur qui est franchement très dur à lire et que je ne vous conseille pas, qui est l'archéologie du travail, du savoir, pardon. Il fait une archéologie du savoir, c'est-à-dire qu'en gros, ce que dit Foucault, la sexualité, comme instance de vérité, pas comme pratique, ça a toujours existé comme pratique humaine, mais la sexualité eros, les Grecs connaissaient eros, et vivaient eros, mais la sexualité comme instance de vérité du sujet humain, c'est une invention récente. C'est-à-dire qu'en gros, ce postulat, dis-moi ta sexualité, je te dirai qui tu es, Foucault montre que c'est récent, c'est la seconde moitié du 19e siècle, avec l'invention des sciences humaines et de toutes les psychologies, toutes les sciences psychologiques, psychanalyse y compris. Et donc, dans la volonté de savoir, il va en faire la généalogie. La généalogie, c'est-à-dire qu'il va montrer comment ça vient et d'où ça vient et comment ça se construit. Cette vision de l'homme. Alors pourquoi il part de la sexualité? Parce que c'est une introduction à l'histoire de la sexualité. Donc voilà. Mais si on s'abstrait simplement de la question de la sexualité, ce que montre Foucault dans ce livre, c'est précisément comment l'invention des sciences humaines, c'est-à-dire d'une nouvelle représentation de l'homme par l'homme, l'invention des sciences humaines va aboutir à la mort de l'homme. Donc c'est une forme de commentaire averti et prolongé qui va au-delà de la pensée de Nietzsche. Alors en quoi c'est la mort de l'homme? Ce qui a fondé l'idée de l'homme depuis l'Antiquité et en passant encore de façon déterminante par la Renaissance, 15e, 16e siècle italien qui va de pair avec l'art moderne, c'est quoi? La Renaissance, qui est aussi la Renaissance de la pensée grecque, hein, au-delà du christianisme médiéval. La Renaissance invente cette vision du monde, de l'existence, qui fait que l'homme est au centre. En d'autres termes, l'invention de l'humanisme, qui est, entre parenthèses, remise en cause aujourd'hui, dans le temps présent, et on pourrait vraiment réfléchir à ça, dans le temps présent, l'humanisme est remis en cause de façon définitive, ou en tout cas durable, et on peut s'en réjouir à condition qu'on soit conscient sur le fait que ça soit lourd de conséquences. L'humanisme s'invente au 15e, 16e siècle et va construire l'Occident. C'est la fameuse, je l'avais déjà évoqué, représentation de l'homme qui est le programme de la modernité européenne, faite par Michel-Ange, un homme, bras et jambes écartés, dans un cercle, et son nombril, pardon, j'ai dit Michel-Ange, Léonard de Vinci, et son nombril est le centre du cercle, le cercle qui est la représentation du monde, hein, l'orbe, orbus, vous savez que la formule du pape, urbi et orbi, c'est-à-dire par la ville et par le monde. Le monde, on le représente comme une orbe. Une orbe, c'est un cercle. D'accord? Donc, le cercle de Léonard de Vinci, au centre duquel est l'homme, c'est le monde, le cosmos. Et donc, ce dessin, c'est l'homme devient le centre du monde. Non, non. C'est pas un anthropomorphisme. L'anthropocentrisme. Mais pas l'anthropomorphisme. On est d'accord. L'anthropocentrisme. Ben, c'est l'humanisme. Le programme de l'humanisme, c'est le dessin de Léonard de Vinci. C'est la même chose. C'est l'anthropocentrisme. C'est-à-dire, la valeur cardinale, c'est l'homme, et l'homme est au centre. Ça se traduit, mais je l'avais déjà dit, mais je vous le redis, c'est important, par l'invention moderne de la représentation picturale du monde par la perspective. La perspective est précisément qui s'invente à la même époque. Regardez une civilisation qui a développé l'art pictural à son sommet. Il n'y a pas de perspective. C'est la civilisation chinoise. Dans les peintures chinoises, il n'y a pas de perspective. Dans la peinture médiévale, il n'y a pas de perspective. La perspective est concomitante de la Renaissance et de l'humanisme. D'accord ? Pourquoi ? Parce qu'elle veut dire la même chose que le dessin de Léonard de Vinci. La perspective, c'est pas une représentation du monde plus vrai que nature. La perspective, c'est l'affirmation qu'on ne voit jamais le monde qu'à travers sa propre fenêtre. Donc, la perspective se détermine par rapport à un point de vue. Pour construire un paysage, une rue en perspective, il faut déterminer le point de vue. Vous avez appris à l'école comment on fait des dessins en perspective. Vous faites un point de vue, et à partir de là, vous faites les lignes de suite, et vous allez construire la proportionnalité de ce que vous allez représenter à partir de la ligne de fuite. Sauf que, si vous faites une rue en perspective, la maison qui est tout au fond, vous la faites petite, c'est pas la réalité. La réalité, elle est aussi grande que la maison du premier point. C'est la représentation d'un point de vue subjectif, du point de vue subjectif d'un individu humain, d'un sujet humain. Donc, la perspective n'a été possible que parce qu'on a inventé l'homme centre du monde. Donc, toute la pensée occidentale, depuis l'humanisme grec, il y a une forme d'humanisme dans la Grèce antique, c'est un peu abusé, mais entre guillemets, mais quand même, et accentué, amplifié par la Renaissance, jusqu'à la fin du 19e, est marqué par le fait que l'homme est au centre. L'homme est au centre, pour que l'homme soit au centre, ouais, je vais arrêter, pour que l'homme soit au centre, il faut qu'il y ait quelque chose qui tienne l'homme. Il faut qu'il y ait que l'homme soit sa propre transcendance. Il faut que l'homme, il y ait de l'infini dans l'homme. En gros, dans l'humanisme, l'homme est infini. Le problème, c'est que ça se pense, ça s'est toujours pensé, à partir du postulat qu'il y a un principe qui est infini, qui habite l'intériorité de l'homme. Et ce principe qui est l'infini, les Grecs pouvaient l'appeler le premier principe, l'Occident chrétien l'appelle Dieu. Si l'on enlève cette source de l'infini qui est le premier principe, qui est Dieu, on fait s'effondrer sur soi-même l'homme comme dimension infinie, comme transcendance, comme possibilité de création. L'homme devient une chose, un objet, une chose parmi les choses. Et que l'homme devienne une chose parmi les choses, c'est précisément le présupposé des sciences humaines. Et le triomphe actuel, je vous demande simplement de réfléchir à ça, le triomphe actuel des sciences humaines, on le voit, malheureusement, dans le fait qu'avec la Covid, on ne raisonne plus l'organisation du monde, la société, qu'à partir de la statistique. Statistique. Tout est devenu statistique. On ne parle que des chiffres. Le journal, au sens général du terme, comme dirait Milner, le journal, donc c'est la radio, les journaux papier, la télé, peu importe, le journal démarre systématiquement actuellement à partir de statistiques. Or, la statistique suppose quoi ? La statistique suppose une opération mentale, très simple, qui est de considérer que une multitude humaine, c'est une collection, une série de choses qu'on peut réduire à une arithmétique. La statistique suppose ça. Oui, mais il y a d'autres formes de rationalisation. Hein. Non, c'est pas qu'une rationalisation, c'est une chosification. La statistique suppose la chosification de l'homme. Donc, il n'y a plus de sujet. Oui. Donc, vous voyez, ça triomphe aujourd'hui, cela. C'est ça. C'est pour ça que je prends l'exemple de la commune. Et c'est dans tous les domaines. Mais le triomphe de l'évaluation. Le triomphe de l'idéologie, parce que c'est devenu une idéologie de l'évaluation. C'est ça, l'évaluation. L'évaluation ne repose que sur la quantification. Que c'est des indicateurs quantitatifs. On a échoué, parce que c'est pas possible par définition, à faire de l'évaluation qualitative. Ça a été un leurre. L'évaluation suppose de transformer en chiffres, en quantité, en indicateurs comptables, tout. Pourquoi ? Parce que le qualitatif, ça renvoie à la singularité. Et du coup, si on admet la singularité des sujets, on ne peut plus faire de la statistique. Donc la statistique tue. Et non, la statistique, c'est la traduction de la mort de l'homme. Vous voyez ? Foucault l'avait pressenti, il ne dit pas, il parle pas de statistique si vous voulez, mais Foucault avait pressenti les fondements de ça à partir de l'invention des sciences humaines au 19e siècle, à la fin du 19e surtout. Voilà, on en reste là pour aujourd'hui.